Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Sur RDWA 101.7 et 107.5 FM, également sur internet www.rdwa.fr. Depuis le théâtre Les Airs avec Aurélie et Gaëlle. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Le théâtre de nuit, la Camerata, deux compagnies associées pour une sortie de résidence pour vous, auditrices, auditeurs, demain, jeudi. On va préciser ça. Est-ce que vous pourriez l'un l'autre vous présenter un peu et puis présenter la compagnie ?
Alors je suis Aurélie Morin, j'ai fondé la compagnie en 2003, le Théâtre de Nuit. C'est une compagnie qui travaille sur les liens entre les arts plastiques, la lumière, le théâtre d'ombre, le corps aussi. Voilà, qui explore les langages à la croisée de ces différentes expressions artistiques. Voilà, on est très heureux d'être au Théâtre de Die une nouvelle fois pour travailler une semaine ici autour du dispositif scénographique et de la rencontre entre les 6 musiciens sur scène avec nos images et nos lumières.
Basé où ?
Nous sommes basés à Saillant, au Temple.
C'est quoi ton parcours ?
Alors, je viens de la danse au départ. J'ai une formation donc plutôt classique en danse au conservatoire. Et puis ensuite, j'ai fait une école à Bruxelles, à Partz, de danse aussi. Ensuite, j'ai poursuivi sur le mouvement avec des formations assez multiples auprès de différents chorégraphes avec le CND à Paris et à Lyon. Et ensuite, j'ai bifurqué vers les arts de la marionnette. Pour pouvoir avoir un rapport plus direct avec les matières, la matière. Donc j'ai fait l'ESNAM à Charleville, qui est une école où on apprend différentes techniques autour de la marionnette, des figures. Et c'est là que j'ai rencontré différents maîtres d'ombre, en particulier Fabrizio Montecchi, qui m'a initié au théâtre d'ombre.
Donc Gaël Rassard, donc, je suis musicien intermittent, je suis violoniste. Je vais commencer par présenter l'ensemble que j'ai créé en 2004, qui s'appelle La Camerata, qui est basée à Lyon. La Camerata, c'est un orchestre à cordes sans chef d'orchestre, qui a cette particularité-là. On est entre 15 et 20 musiciens, lyonnais au départ. Et puis, pendant une bonne dizaine d'années, on a exploré un petit peu le répertoire pour orchestre à cordes. On a même accompagné des chœurs, on a fait aussi des choses avec des programmes symphoniques, en ajoutant évidemment des musiciens. Et à partir de 2012, j'ai orienté la direction artistique vers en priorité le métissage musical et des croisements d'esthétique. Ça va de, on peut dire, musique du monde, jazz, classique. Donc, on n'est plus resté dans notre secteur de prédilection de départ avec le classique. Et puis, on a fait aussi de la musique de film, on a fait aussi des choses qui croisaient un peu les différentes disciplines artistiques, donc un conteur et orchestre à cordes. Et j'avais envie de faire également un croisement entre la danse et la musique, et notamment avec cette pièce de La Nuit Transfigurée dont on va parler après. Et puis finalement, ça ne s'est pas orienté vers la danse, mais plutôt vers le théâtre d'ombre et d'objets. Voilà, donc cet ensemble, il a eu une dizaine d'années d'existence vraiment sur une partie plus classique, et ensuite, effectivement, on a migré vraiment vers de la création avec des croisements d'esthétique et des croisements pluridisciplinaires. Donc voilà, depuis, c'est ce qu'on fait. C'est plusieurs projets de création qui tournent, certains qui sont devenus même des groupes à part entière, parce que souvent ça n'intègre pas la totalité des musiciens, parce qu'on est quand même on est 20. Mais quelquefois, ça va être 4 ou 5, ça va être 6. Voilà, sur des projets comme La Nuit Transfigurée, on est 6. Comme on ajoute aussi d'autres esthétiques, il y a d'autres musiciens qui viennent du jazz. Il y a un autre projet qui tourne où on est 8 musiciens avec un ingénieur du son. Et là, il y a juste un quatuor à cordes. et tout vraiment tourné vers de la création, donc quelque souvent avec des choses originales. Pour La Nuit Transfigurée, c'est pas le cas, mais pour d'autres spectacles, c'est vraiment de la composition. Voilà, c'est les musiciens du groupe qui amènent des choses et on est vraiment sur de la création pure.
Et toi, tu viens d'où ?
J'ai fait mes études à Lyon, au conservatoire. J'ai fait mes études après au conservatoire supérieur. Et puis, je suis parti un petit peu étudier à l'étranger. Donc, ça m'a ouvert d'autres horizons aussi, de rencontrer d'autres personnes, un peu en Hollande, un peu en Allemagne. Et puis, je suis revenu à Lyon. Et je me suis installé à Lyon. Et à partir de ce moment-là, donc en début 2000, ensuite, j'ai créé l'orchestre à cordes. Après, moi, j'ai une activité qui est beaucoup tournée vers la création. Donc, entre autres avec la Camerata que j'ai fondée, mais aussi avec des ensembles, l'ensemble orchestral contemporain, qui est basé à Saint-Étienne maintenant, complètement. Qui fait que de la création contemporaine. Donc là, on est vraiment sur une esthétique d'aujourd'hui, avec des compositeurs qui écrivent vraiment pour l'ensemble. Là, c'est pareil, c'est entre 15 et 20 musiciens, grand maximum. Chaque musicien étant soliste, hein, c'est vraiment une formation du 20e siècle de la composition. Donc c'est un instrument par voix. Donc il y a un quintet à cordes, un quintet de vent, des cuivres, un ou deux percussionnistes, un piano, une harpe. Donc ça occupe une grande partie de mon activité. Et puis je fais aussi partie d'un ensemble au Portugal, ça s'appelle l'ensemble d'Arcos, qui est un ensemble qui fait aussi beaucoup de créations, de la musique de chambre et des projets un petit peu plus larges avec du jazz. Enfin, ça mélange aussi beaucoup de choses. Donc finalement, avec ces différents ensembles, je fais quand même un petit peu la même chose. Et à côté de ça, j'ai aussi une activité en tant que supplémentaire dans des orchestres, soit comme soliste, soit comme tutiste. Dans l'orchestre de Lyon, à Mulhouse, l'orchestre des Pays de Savoie. Enfin voilà, je vais où on m'appelle. Voilà, j'ai une activité quand même très, très variée.
Un mot sur cet orchestre sans chef d'orchestre.
Au départ, c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir participer à un ensemble similaire qui s'appelait European Camerata, qui était un orchestre de cordes, pareil, d'une quinzaine de musiciens, mais qui était basé à Londres et qui tournait quand même pas mal en Europe, et avec Laurent Quesnel qui s'en occupait à l'époque. Et voilà, ça m'a donné très envie parce que c'est un format d'orchestre qui se rapproche beaucoup de la musique de chambre. J'avais très envie aussi de travailler sans chef d'orchestre, non pas simplement pour me substituer au rôle de chef d'orchestre, parce que finalement, les orchestres sans chef, ils ont quand même des chefs, notamment le violon solo qui fait office de chef d'orchestre sans baguette. Mais bon, il y a quand même une liberté de jeu, d'interprétation qui est forte dans ces orchestres-là, parce que bah, les musiciens s'impliquent différemment. Dans le travail aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui ne sont pas possibles dans des orchestres de grand format. Enfin, pas possible, ou en tout cas, dans la plupart des orchestres, ça n'est pas mis en place. Peut-être que c'est possible dans l'absolu, mais là, en tout cas, c'est souvent, on ne trouve pas d'orchestre symphonique de 80, 100 musiciens où les musiciens peuvent lever la main n'importe quel moment pour poser une question et donner des possibilités de travail ou d'interprétation. Il n'y a pas ce choix-là parce que c'est un fonctionnement très, très hiérarchisé. Donc moi, je voulais pas, ça ne m'intéressait pas ce travail-là. J'avais plutôt envie, même s'il y a quand même une hiérarchie, de pouvoir avoir cette liberté de travail au sein d'une formation de 15 ou 20 musiciens. Alors c'est plus facile à faire à 15-20 qu'à 80, évidemment, parce que dès qu'on a des groupes très importants, bah, évidemment, il y a des hiérarchies qui se mettent en place. Mais quand même, même à 15 ou 20, on trouve quand même cet espace, cette liberté, cet air-là qui circule, et où chacun peut quand même donner son avis, et voilà, il y a beaucoup plus d'interactions, et au concert, il y a beaucoup plus d'implications, parce que tout le monde est hyper moteur, tout le monde est investi à 200%, et voilà, il y a une énergie différente qui circule vraiment, sans chef.
C'est marrant parce que du coup, vous avez un point commun là qui vous rassemblerait, celui d'avoir fait péter un peu les codes de vos disciplines respectives.
C'est vrai que moi, j'aime bien écouter plutôt le parcours que j'ai fait plutôt que d'essayer de rentrer dans une petite boîte. J'aime bien que les choses se rencontrent, j'aime bien croiser les langages.
Alors, on rentre dans le vif du sujet. Vous travaillez donc une pièce que tu as commencé à nous citer un peu, Gaëlle. Faut pas tout dire, évidemment, mais qu'est-ce que vous voudriez en dire quand même ? Est-ce que tu veux reprendre ?
Au départ, c'est Gaëlle qui nous a invités pour se lancer avec lui dans l'adaptation pour l'ombre et pour la figure de La Nuit Transfigurée. Donc l'œuvre musicale, je préfère que ce soit Gaël qui en parle. Mais en tout cas, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de parler du poème aussi sur lequel l'œuvre musicale s'est basée. Donc ce poème, c'est un poème un peu post-romantique qui raconte la balade d'un couple dans une forêt à la nuit. Et ce poème, en fait, dans toute sa simplicité, il nous permet d'évoquer plein de sujets, de se poser des questions à la fois sur notre rapport intime à nous-mêmes, à l'autre, au vivant aussi, parce que les éléments du vivant et même les éléments cosmiques ont presque une présence palpable dans le poème. Et donc mon envie, c'était de travailler la matière et la lumière, de la travailler comme plutôt des états, montrer comment la lumière traverse la matière et révèle ces différents états comme des états que nous, on pourrait traverser en tant qu'être humain vivant. Donc en fait, l'envie, c'est vraiment d'être sur la relation. Voilà, la relation, comment la relation nous transforme en partant de ce poème. Et j'aime beaucoup l'idée que les musiciens soient sur le plateau parce que en fait, ça permet de faire vibrer les choses différemment. D'être plus simple aussi dans l'image, de ne pas être dans une profusion, dans une suractivité d'images, d'action scénique. J'ai plutôt envie d'être dans une anti-performance, on va dire, et d'être dans une sobriété au niveau de l'image et même de ce qu'on propose en termes d'action sur la scène. De ne pas être en fait dans une proposition qui soit anthropocentrée, mais plus qui donne une parole à plein d'éléments qui se répondent et qui résonnent ensemble.
Ça passe par différents dispositifs. La lumière va traverser de l'eau, des tissus, des...
On va travailler sur les reflets. Effectivement, la lumière, elle va traverser nos écrans. Les écrans, pour nous, c'est comme des peaux qui sont presque intelligentes, qui peuvent vraiment révéler des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. On travaille aussi avec des petites machineries, des installations à l'arrière de la scène, mais qui sont quand même un peu visibles. Donc on va travailler aussi sur les flous, sur des choses qui se révèlent, qui disparaissent, qui apparaissent. Des choses très simples, mais qui peuvent aussi nous ramener à une sensibilité sur la scène, une sensibilité plus épidermique, on va dire.
Et quand tu parlais du poème, il va être déclamé, il y a une partie de texte joué ?
Pas forcément déclamé, pas forcément mis en jeu, mais peut-être apparaître par mots, par bribes de phrases projetées. On va gratter des choses au rétroprojecteur, on va utiliser vraiment des systèmes très artisanaux de projection d'images pour faire apparaître les mots de façon... plutôt physique, quoi, plus sensoriel que théâtral.
Alors cette œuvre, Gaël.
Bon, La Nuit Transfigurée, c'est un ancien projet pour moi, parce que c'est vraiment une œuvre qu'on a jouée déjà en sextuor à cordes, même en orchestre à cordes, parce qu'il existe une version de Schoenberg que Schoenberg a arrangée pour orchestre deux fois. La version orchestre et la version sextuor sont assez différentes. Enfin, c'est la même musique, mais évidemment, le rapport à l'intime est quand même assez différent. Et la version sextuor, elle est peut-être plus fine, elle est peut-être plus directe dans le discours aussi, parce que bon, on rajoute évidemment quand on a cette version orchestre, on rajoute des violons, on rajoute il y a une partie de contrebasse qui a été complètement pas inventée, mais qui surligne les graves. Donc dans la version sextuor, on trouve quand même un peu plus de finesse, et j'avoue que j'ai une petite préférence pour cette version là. Et c'est un projet ancien parce que j'avais très envie de monter la pièce après qu'on l'ait jouée les instrumentistes à cordes. J'avais très envie de la monter. Alors au départ, c'était plutôt avec de la danse. Et puis finalement, c'est resté de côté ce projet-là. Je l'ai laissé un peu décanter, puis ça n'a jamais vraiment abouti. Et en découvrant le travail de la compagnie du théâtre de nuit sur Internet, parce qu'ils avaient fait des petits teasers de présentation dans le cadre d'un regroupement de collectifs, j'ai vraiment accroché sur l'esthétique visuelle, poétique. Et puis ce côté avec la lumière, vraiment le travail sur la lumière qui est que je trouve vraiment intéressant. Et je pense que ces deux univers-là, c'est-à-dire la musique de Schoenberg et le théâtre d'ombre et d'objets et de lumière, pouvaient très très bien coller ensemble. Donc c'est là que j'ai effectivement contacté Aurélie. Donc l'œuvre en elle-même, bah, c'est qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est une œuvre qui date de la fin du 19e siècle, qui est dans un tournant musical qui est dans la continuité du romantisme, qui est plutôt dans le post-romantisme, on va dire, comme des compositeurs comme Strauss, comme Wagner, et puis dans la lignée aussi de Brahms. Voilà, il y a quand même des références. Schoenberg écrivait vraiment dans cette continuité-là. C'est pas le Schoenberg qui arrive plus tard, qui a voulu casser toute forme de structure, de langage et inventer des nouvelles choses. Mais quand même, on sent déjà un peu les prémices d'une exploration, de pousser la mélodie, pousser l'harmonie, le contrepoint à son maximum. Et il y a quelque chose dans cette pièce qui est... Bon, déjà, c'est une pièce qui est extrêmement lyrique. Il y a des thèmes très forts. Il y a une construction très contrapuntique avec beaucoup de mélodies qui se superposent, qui se suivent, qui se répondent. Donc, il y a un vrai dialogue permanent des six instrumentistes. Et voilà, on est vraiment sur quelque chose de très lyrique et très romantique. Et effectivement, au départ d'un poème qui comme l'a dit Aurélie, qui évoque plein de choses au niveau de l'individu, au niveau du couple, au niveau de la femme. Il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Moi, j'avais très envie de mettre ça en image aussi. Voilà.
Que finalement, il ne soit pas que écouté.
Oui, après, on peut très bien écouter cette pièce. En fait, c'est une pièce qui, on le voit parce qu'on l'a beaucoup joué en sextuor, on l'a beaucoup joué en concert, simplement. Et c'est prenant du début à la fin, quoi. De la première note à la dernière, le spectateur est pris par le truc. Il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau du discours, de l'évolution, justement de la construction par rapport au poème aussi, avec des chapitres bien différents, des strophes différentes. Enfin, voilà. Donc on arrive vraiment à... On est complètement pris en tant que spectateur. Et donc le discours musical, déjà, il se suffit à lui-même. On va essayer justement d'élargir un peu la vision, voilà, et de donner un peu plus, encore plus de poésie à cet univers-là.
Qu'est-ce que vous faites là, du coup, en ce moment ? C'est quoi l'objet de cette résidence, précisément ?
Nous, on est arrivés lundi avec Élise et Aurélien, avec qui je travaille depuis plus de 15 ans.
Ils font quoi ?
Alors Aurélien, il est compositeur, il est régisseur et il est constructeur aussi. Et Élise, elle est plasticienne et marionnettiste. Donc on travaille vraiment en trio. Et tous les trois, on a travaillé sur la scénographie. Les deux premiers jours, on a vraiment été dans de la construction pour améliorer les écrans. En fait, ils étaient trop petits, donc on avait besoin de faire des tests assez techniques avec justement tous les panneaux qui vont nous servir d'écran. Et aussi, on a un bassin sur scène qu'il est important de bien mettre en place parce que les musiciens vont avoir quand même les pieds dans l'eau et notre
elle sera chaude au début
elle sera chaude. Et voilà, donc le bassin, c'est quand même une petite curiosité dans le dispositif. On a vraiment envie que les musiciens fassent partie en fait du mouvement scénique et pas qu'ils soient cachés dans une fosse ou quichés sur le côté. Donc on avait vraiment besoin de travailler ça cette semaine.
Et vous-même, le trio, vous êtes sur scène?
Oui, Élise et moi, on est sur scène. On aura sans doute une troisième personne avec nous pour mettre en mouvement les choses. Et Aurélien, il est plutôt à l'extérieur en régie. Et les deux derniers jours, on a donc la rencontre avec les musiciens où on va pouvoir plutôt travailler sur la lumière et des choix de matériaux. On va faire des explorations justement sur des matières, sur comment on peut faire ressentir des choses en manipulant à vue des matières traversées par la lumière. De l'humus, de la terre, de la pâte. De la pâte qu'on va fabriquer, de la peinture transparente, des sables différents, des peintures grattées. Qu'est-ce qu'on a emporté ? On a aussi envie de quand même tester des silhouettes.
Et vous projetez sur les musiciens ?
Oui, ils sont dans le dispositif au niveau du bassin. Donc il y a des écrans qui sont derrière eux, mais il y a aussi des projections qui sont diffusées depuis l'eau elle-même. Donc les musiciens, voilà, la peau des musiciens reçoit les images, ils vont avoir des tenues claires. Donc ils vont aussi résonner par rapport aux projections de lumière et de reflets. On travaille vraiment sur... le clair-obscur, il n'y a pas beaucoup de lumière, on n'est pas dans une surexposition. Donc les instruments, ils apparaissent dans la pénombre, ça va être comme des présences supplémentaires.
Tu veux présenter tes compagnons musiciens, Gaël ?
Donc il y a Louis-Jean au violon, Louis-Jean Perrault, en alto Élise Vachalde, il y a Estelle Gourinchat. Voilà, c'est presque tous des Lyonnais, enfin c'est des Lyonnais ou alors ils sont entre Lyon et ailleurs. Et en violoncelle, on a Nicolas Cerveau et Valérie Dulac. Deux par instrument, enfin deux violons, deux altos, deux violoncelles.
Donc vous, pour vous, l'enjeu là, c'est de vous adapter, de servir de cobaye sur une œuvre que vous maîtrisez parfaitement finalement.
Alors non, déjà, on maîtrise jamais parfaitement ce genre de pièce parce que c'est complexe et difficile et c'est toujours très délicat. On a toujours besoin d'affiner et d'avancer dans la compréhension de l'œuvre et du langage. Mais non, on ne sert pas vraiment de cobaye. Je pense là, on est vraiment sur un partenariat où il va y avoir des interactions entre les membres de la compagnie et le sextuor et voilà, sur des allers-retours. J'espère qu'on aura aussi des moments d'échange dans tout ce qui est conception et création, même si nous on fabrique pas les éléments avec eux, il y aura tous ces moments de résidence effectivement où on a ce dialogue permanent.
La sortie de résidence, donc c'est demain, jeudi 31, à quelle heure ?
À 18h.
Au théâtre Les Airs. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une sortie de résidence ?
C'est avant tout une rencontre avec un public. Qui pour moi j'ai envie qu'elle soit conviviale et qu'elle puisse permettre un échange informel sur l'état actuel de nos recherches et de nos questionnements. Donc on va restituer des extraits de la musique jouée en live avec des essais de lumière et de mouvements de scéno. Ensuite, on pourra aussi avoir un échange autour du propos du spectacle, que raconte le spectacle et comment le dispositif peut porter ça.
Tu as envie de rajouter quelque chose ?
Oui, effectivement, les moments de restitution comme ça, bon, évidemment, c'est une rencontre avec le public, et puis ça permet pour nous toujours d'avoir une espèce de flash au cours de la création, qui est tous ces moments, parce que c'est quand même une gestation assez longue, ce genre de spectacle, un an, deux ans de travail, avec des moments des moments de doute, des moments aussi où les choses avancent, des moments où on est sur des contraintes techniques. Donc c'est toujours un moment, les restitutions, sont toujours des moments, et les résidences, c'est toujours des moments un peu, un instant T qui est donné sur le cheminement de la création, de l'avancement.
Vous prévoyez de le faire tourner après ?
On a plusieurs soutiens très importants pour nous, dont le Théâtre de Die, le Théâtre de la Renaissance à Oullins, la scène nationale de Valence, qui sont portés par des personnes avec qui on a des relations qui durent, qui ont accompagné plusieurs de nos spectacles. Catherine Rossi-Bateau, Hugo Frison, Mathieu Darde, le nouveau directeur du Théâtre de Die. Et puis on a aussi un partenariat avec le Centre National de la Marionnette à Laval, qui est dirigé par Pierre Jamet, qui a aussi beaucoup soutenu nos créations avec le Théâtre de Nuit. Voilà, et d'autres partenariats en cours. Donc tous ces lieux qui nous soutiennent vont aussi nous programmer, et on va aussi présenter le projet à la Route des Vins, qui est un regroupement de plusieurs lieux. Et donc cette présentation nous permet de rencontrer des personnes qui pourraient avoir envie de suivre le processus de création, et aussi nous accompagner, pourquoi pas, jusqu'à la fin. Et comme c'est une pièce qui est quand même mondialement connue, moi j'avais presque envie aussi de jouer à l'étranger. Voilà, c'est quelque chose dont j'aurais très envie, puisqu'on est sur un langage universel sans parole parlée, verbale, on va dire.
Ouais, les mots, tu les traduis, puis voilà.
Voilà, on peut aussi les traduire, on peut les projeter, voilà. Comme je disais tout à l'heure, on est sur un langage qui porte plusieurs paroles qui se superposent.
Tout à fait, c'est universel.
On termine vite fait avec vos sites, vos trucs. Où est-ce qu'on vous trouve un peu ?
Alors nous, on a un site internet, letheatredenuit.org. On n'est pas hyper vif en termes de réseaux sociaux, mais on s'y fait. Donc Instagram, Facebook, tout ça, c'est encore un petit peu en cours, mais voilà, on va diffuser pas mal de trucs sur les réseaux sociaux aussi. Mais sinon, on aime bien le bouche à oreille aussi. Voilà.
L'humain avant tout.
L'humain avant tout.
Ouais. Non, nous c'est pareil. Hein. C'est vrai que le projet, il va surtout graviter autour du théâtre de nuit, donc je pense que pour les réseaux sociaux, ça va être pareil. Après, on a un site qui n'est pas très à jour non plus, mais et puis on est un peu présent sur les réseaux comme Instagram et Facebook, voilà, pour la diffusion d'infos, et on va relayer tout ce que la compagnie publie, voilà, mais ça sera surtout centré sur la compagnie, je pense, sur ce spectacle.
Gaëlle et Aurélie, merci à vous.
Et ben merci à toi.
Merci à toi. À bientôt. À demain.